Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, Brasero, ça raconte quoi? Brasero.
Brasero.
Ça raconte.
Eh, Brasero. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu la racontes ou tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
C'est l'histoire de Mélusine et des sorcières au placard à balai.
Il vivait, dans un petit village, une jeune femme et sa grand-mère. Mélusine, c'est le nom de cette jeune femme, qui avait grandi dans cette campagne, planquée entre deux forêts, dans une petite maison en pierre. Sa grand-mère, qui l'avait recueillie à l'âge de 2 ans, était sa plus grande complice. Elle lui avait appris la plupart des choses qu'elle connaissait, et elle en connaissait des choses.
Elle savait reconnaître les plantes, et savait comment les utiliser, à quoi elles servaient. Elle pouvait se repérer dans tous les recoins de la forêt. La plupart de ses amis étaient des animaux. Elle adorait s'asseoir sur le gros rocher dans le jardin pour jouer de la guitare pendant des heures. Elle ne s'ennuyait jamais.
Un jour que Mélusine avait grandi, alors qu'elle était installée devant la cheminée pour faire du pain avec sa mère grand, cette dernière lui dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui raconter. Sa grand-mère, en effet, se sentant affaiblie, se sentant proche de l'au-delà, décida qu'il était temps de lui raconter l'histoire de sa venue, l'histoire de sa mère.
Mélusine, il faut que je te raconte une histoire qui changera ta vie aussi profondément que tu as changé la mienne. Il fut une époque aujourd'hui oubliée où vivaient libres et autonomes les sorcières. Ta mère en faisait partie. À cette époque, toutes les sorcières sortaient la nuit dans la ville de Toulouse et dans d'autres villes encore. Grâce à leur pouvoir et à leurs connaissances ancestrales, elles étaient connues et sollicitées par toutes et tous ceux qui le désiraient. Elles faisaient des avortements, elles mettaient des enfants au monde, elles soignaient les gens, leur donnaient des conseils pour le présent et l'avenir. Elles étaient aussi réputées pour leurs incroyables fêtes qui duraient jusqu'au petit matin. Ces nuits-là, elles dansaient et chantaient lors de leurs rondes sans fin. Elles aimaient faire des potions, boire, faire la fête. Elles aimaient aussi quand elles ne festoyaient pas, déambuler dans les rues la nuit par 2 ou 3. Et les nuits au temps des sorcières, Mélusine, elles étaient paisibles. Leur présence y était rassurante et un seul de leurs regards dissuadait directement les malotrus qui s'apprêtaient à malotruire. Tout le monde les aimait, les sorcières. Enfin, presque tout le monde. Certains, quand même, ne les aimaient pas tant. Ils disaient que leur passage faisait frémir les murs, que quand elles étaient dehors, les étoiles brillaient trop fort, que leur rire était trop clair et que leur désinvolture était insupportable. Alors, ceux-là, qui n'aimaient pas tant les sorcières, commencèrent à se réunir dans un local près de François Verdier pour parler du bien-être et de la sécurité de tous. Leur discours commença à se répandre dans bien des espaces de la ville et partout, l'on commença à entendre de drôles de choses sur les sorcières.
Un enfant faisait une bêtise.
C'était la faute des sorcières.
Un homme ne signait pas un contrat juteux.
La faute des sorcières.
Une femme rentrait tard le soir et n'avait pas préparé le dîner.
Évidemment, la faute aux sorcières. Jusqu'au jour où une histoire fit déborder le vase de ceux-là qui n'aimaient pas tant les sorcières. Et ils se sont mis à geindre que c'en était trop, qu'on ne pouvait plus être à l'aise nulle part et qu'il fallait passer à l'action. C'est à cette époque-là que l'un d'eux, leur porte-parole, réussit à convaincre le maire de la ville de lui laisser gouverner les nuits. Il proposa une série de mesures visant à stimuler la consommation dans les restaurants et les bars, fit installer des lumières criardes et des caméras dans les rues. Mais surtout, il réussit à médiatiser cette histoire montée de toutes pièces.
Hier, une altercation a mal tourné entre une sorcière connue des services de police et 2 jeunes hommes. Elle aurait utilisé ses pouvoirs pour s'amuser à leur faire du mal. Les 2 victimes, grièvement blessées, sont encore à l'hôpital. Cette histoire a suscité l'empathie d'une 100aine de célébrités qui signent aujourd'hui même une tribune de soutien aux victimes.
Cette médiatisation venait enfoncer le clou dans la banalisation du discours anti-sorcière. Et comme cela, journaliste et célébrité en poche, le maire de la nuit réussit à convaincre la plupart des Toulousains qu'il n'était plus en sécurité nulle part. En tout cas, tant que les sorcières seraient libres la nuit et pourraient se servir de leur pouvoir comme bon leur semble. Alors quand il instaura le couvre-feu, les gens ne savaient plus quoi penser et se dire que c'était peut-être mieux, comme ça. À 22h, tout le monde devait dorénavant être au chaud, à la maison, devant un film ou, au pire, un livre et au dodo. Pour les sorcières, pour qui 22h était à peine le début de la soirée, l'heure où elles choisissaient leur balai et leur chapeau du soir, ce fut une catastrophe. Plus de nuit, plus de vie de sorcière. Quelques-unes qui décidèrent de quitter la ville, mais en s'éloignant, commencèrent à perdre leurs habitudes et leurs pratiques de sorcière, et peu à peu leur pouvoir. Elles survécurent certes, mais durent renoncer à ce qui faisait d'elles ce qu'elles étaient. La plupart résistèrent. Elles avaient bien tenté à quelques reprises de sortir tout de même, et avaient été violemment réprimées. Comme cette situation devenait insoutenable, elles restaient chez elles, assises, puis recroquevillées, à côté de leur balai, dans les placards à balai. C'est alors qu'elles s'endormirent pour une longue nuit. Aujourd'hui encore, elles dorment dans les placards, attendant que des jours meilleurs leur permettent de reprendre leur vie d'avant, attendant qu'un oiseau de bon augure leur donne le signal du réveil. C'est à cette époque, un jour que j'étais de passage à Toulouse et que tu avais à peine 2 ans, que ta mère, qui voyait bien ce qui se passait, qui somnolait toujours plus longtemps entre le balai et l'aspirateur et ne pouvait plus s'occuper de toi, qu'elle m'a demandé que je t'emmène avec moi dans notre petite maison de pierre, dans cette campagne, flanquée entre 2 forêts. Voilà, Méduzine, tu sais tout.
Quelques jours après que sa grand-mère lui ait raconté cette histoire, Mélusine débarquait à la gare routière, à la recherche de l'histoire de sa mère. Elle n'était plus jamais revenue à Toulouse, ni dans aucune grande ville d'ailleurs, et elle était tout à la fois excitée et effrayée. Elle avait une seule indication que lui avait donnée sa mère grand.
« Sur la place du marché aux cochons, tu verras la dame aux chiens. Elle pourra sans doute t'aiguiller. »
Par le métro, Mélusine arriva facilement à Bonport et resta assise toute la journée sur la place. Se demandant si la dame arriverait, si elle la reconnaîtrait, si celle-ci pourrait vraiment l'aider, et surtout, si tout cela avait un sens. Allait-elle pouvoir retrouver la trace de sa mère ? Allait-elle, pour cela, devoir ouvrir tous les placards à balai de tous les appartements et de toutes les maisons de la ville ?
Elle vit les heures passer. Le soleil commençait à baisser. Entre chien et loup, elle entendit des chiens, justement, se mettre à aboyer. Et quelques minutes après, une vieille dame, qui marchait lentement et parlait à voix haute, vient s'asseoir au milieu de la place. Et tous les chiens du voisinage s'assirent autour d'elle et cessèrent d'aboyer. Voyant la scène, Mélusine s'emplit de bonheur. Aucun doute, c'était la femme qu'elle cherchait.
La dame, qui avait pour prénom Malika, lui raconta que tout le monde l'avait toujours crue folle. Mais qu'on l'avait laissée traîner là, y compris aux heures les plus sombres du couvre-feu, car elle seule arrivait à calmer les chiens du quartier. Les chiens, ses complices, aboyaient tous les soirs jusqu'à ce qu'elle arrive et faisaient silence quand elle était là, si bien que personne n'osa jamais la déloger. Elle était donc la seule à pouvoir témoigner de l'époque des nuits interdites. Elle avait connu les réseaux de sorcières clandestines qui avaient tenté de résister, puis le vide, quand même les plus virulentes avaient été arrêtées ou avaient fini par s'assoupir, elles aussi, pour sauver leur vie. Elle lui raconta aussi comment, peu à peu, une autre sorte de nuit avait pris place. Après une dizaine d'années, les gens avaient commencé timidement à sortir, jusqu'à 22h10, puis 22h20, puis 22h30, comme reprenant une liberté. Mais une liberté si contenue et bien rangée qu'on les laissa faire.
Sans sorcière, le maire et ses complices n'avaient plus de raison de maintenir le couvre-feu. Les soirées redevinrent légales. Elles se passaient dans les restaurants, les boîtes de nuit, les centres de jeux vidéo, les taxis.
Il fallait avoir de l'argent pour sortir, alors de toute façon, une grande partie de la population restait chez elle.
Malika et Médusine passèrent la nuit ensemble à parler sur la place. Et au petit matin, alors que s'installaient les étals du marché aux cochons, elle lui dit
« Mélusine, je t'ai dit tout ce que je savais. Et maintenant, si c'est ta mère que tu cherches, va voir Bachir. C'est lui qui pourra t'aiguiller. »
Mélusine, fatiguée mais heureuse d'avoir une piste pour continuer ses recherches, prit le métro jusqu'à Ampalo. Une fois arrivée, elle entra dans une boulangerie pour demander où vivait Bachir. Et on lui indiqua l'allée 6B d'un immeuble où elle sonna le cœur battant.
Bachir, bien sûr, l'accueillit avec beaucoup de plaisir. Il lui raconta 1000 choses. Et surtout, il lui parla de ses deux petits poissons magiques. Car c'est à ces deux animaux vertébrés aquatiques à branchies que la mère de Mélusine avait confié la direction de sa maison. Après l'approbation de Mélusine, Bachir partit dans une pièce au fond du couloir et revint avec un bocal plein d'eau, dans lequel nageaient deux petits poissons, l'un rouge et l'autre tacheté de noir. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais ça se voyait qu'ils étaient magiques. Mélusine regarda Bachir et lui dit
« Maintenant, parle-leur !»«
Ah non, ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète, mais ne t'en fais pas, j'en ai une !»
Mes petits poissons, et tu auras du saucisson.
À peine eut-il fini de chanter qu'une adorable petite souris se glissa entre les pieds de Mélusine, remontant par sa jambe jusqu'à la table et posa son petit derrière à côté du bocal et poussa 3 petits cris comme ceci. Bachir traduit.
Elle est prête, raconte-lui ton histoire et ce que tu veux savoir.
Mélusine se pencha vers la souris et lui raconta tout. La forêt, sa grand-mère, les sorcières, le maire de la nuit, les placards à balais, la recherche de sa mère. Après l'avoir écoutée en silence, la souris se retourna vers les poissons et leur dit, dans leur langue, ce que venait de raconter Mélusine. Et cela pendant 10 minutes. Après l'avoir écoutée en silence, les poissons se regardèrent, se parlèrent à la branchie, puis remontèrent à la surface de l'eau et ouvrirent plusieurs fois la bouche, s'adressèrent à la souris avec des petits bruits à peine perceptibles. Et comme ça, pendant quelques instants. Après cela, la souris se tourna vers Bachir et à son tour lui raconta. Puis à son tour, Mélusine se tourna vers Bachir et lui demanda.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Elle parle d'une maison au milieu d'un terrain vague. Tu la reconnaîtras car à minuit, la lune rebondit sur un des carreaux. Si la maison accepte ta présence, une biche sera là et d'un coup de pied, t'ouvrira. Pour trouver la localisation de ce terrain vague, tu auras une charade. Mon premier est celui qui attrape le loup. Mon deuxième est l'inventrice de la procréation miraculeusement assistée. Mon troisième est une épice et le tout est le nom de la rue où se trouve la maison de ta mère.
Mélusine remercia Bachir. Bachir donna une pincée de daphni au poisson et une rondelle de saucisson à la souris et sur ce, ils se séparèrent.
Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Mélusine va-t-elle réussir à retrouver la trace de sa mère ? Les sorcières vont-elles sortir de leur placard à balais ? Ou l'effroyable maire de la nuit va-t-il réussir à triompher ? À bientôt !
Promenons-nous dans la ville pendant que l'urbaniste n'y est pas. S'il y était, il nous chasserait. Mais comme il n'y est pas, il nous chassera pas. Urbaniste, y es-tu ? Urbaniste, entends-tu ? Urbaniste, que fais-tu ?
Previously on Brasero.
Dans l'émission précédente de Brasero, midi et soir, nous avions raconté la première partie de l'histoire des sorcières au placard à balais. Dans cette première partie, on découvrait Mélusine, une jeune femme qui avait grandi à la campagne, avec sa mère grand. Sa grand-mère, qui lui avait appris bien des choses, mais qui lui avait aussi caché jusque-là l'histoire de sa mère. Elle apprit que sa mère était une sorcière et vivait à Toulouse. À cette époque, il y a une vingtaine d'années, les sorcières étaient libres et sortaient surtout la nuit. Leur présence apaisante et protectrice incitait de nombreuses personnes à en faire de même, occupant ainsi les rues pour toute la nuit. Jusqu'à ce qu'un groupe anti-sorcière prenne le pouvoir sur la ville. Après la médiatisation d'un coup monté acculant les sorcières, ils réussirent à les contraindre à ne plus sortir la nuit en instaurant un couvre-feu valable pour toute la population, sous prétexte d'assurer la sécurité de tous, et la population l'accepta. Le discours anti-sorcière avait pris beaucoup de place. La répression menée par le maire de la nuit et les forces de l'ordre étaient trop puissantes et venaient à bout de toute forme de résistance. Les sorcières, à bout de force, s'étaient réfugiées dans leur placard à balai et s'y étaient endormies, plongées dans un profond et long sommeil. Après avoir découvert cette histoire, Mélusine décida de partir à la ville à la recherche de sa mère. Et tant d'aventures attendaient Mélusine. Sur les conseils de sa grand-mère, elle avait rencontré Malika, la dame aux chiens, qui lui avait donné le contact de Bachir et de ses petits poissons magiques. Cette dernière visite la laissa avec une charade dont la solution l'amènerait tout droit à la maison de sa mère. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés.
Mon premier est celui qui attrape le loup. Mon deuxième, l'inventrice de la procréation miraculeusement assistée. Mon troisième est une épice. Et le tout est le nom de la rue où se trouve la maison. Mais j'en sais rien, moi.
Mélusine, charade en tête, se mit à marcher dans la ville. Elle arpenta les rues de Saint-Michel et traversa les rails du tramway jusqu'à arriver au Carme.
La charade tournait dans sa tête comme dans un labyrinthe.
Ensuite, elle prit la rue piétonne des Filatiers jusqu'au Capitole.
Et toujours pas de réponse.
Elle marcha encore et encore. Elle tomba sur la grande église de Saint-Sernin, qu'elle contourna pour prendre la rue Gatien-Arnoux jusqu'à la place Arnaud-Bernard.
Ah mais c'est ça, mon premier, c'est Pierre. C'est lui qui attrape le loup. C'est l'histoire que grand-mère me racontait.
Au bout de quelques heures, alors qu'elle remontait lentement la rue Honoré-Serre, elle n'avait toujours qu'une seule réponse à la charade.
La lune brillait et Mélusine se sentait perdue. Ses pieds ne voulaient plus avancer. Elle décida de s'asseoir sur une borne EDF en face de l'église des Minimes. C'est alors que lui vint la deuxième réponse à la charade.
Ah, mais la procréation miraculeusement assistée, c'est Marie ! Pierre et Marie, Pierre et Marie.
Alors que Mélusine se massait les chevilles en soupirant, elle se leva pour continuer à marcher encore. Le regard à l'affût, elle remonta l'avenue des Minimes jusqu'à un énorme rond-point. Elle regarda autour d'elle et au loin, elle vit une enseigne. En plissant les yeux, elle réussit à lire ce qui était écrit dessus.
Rue Pierre et Marie Curie. Mais bien sûr, mon premier c'est Pierre, le deuxième c'est Marie et l'épice c'est le curie. J'y suis.
Elle remonta la rue et assez vite tomba sur un terrain vague, où seule une petite maison avait survécu au bulldozer des urbanistes. Les mots de la souris qui traduisait les poissons de Bachir lui revinrent alors en tête.
Une maison au milieu d'un terrain vague. Tu la reconnaîtras, car à minuit la lune rebondit sur un des carreaux. Si la maison accepte ta présence, une biche sera là et d'un coup de pied t'ouvrira la porte.
Elle regarda la maison. La lune ronde offrait son plus beau reflet sur la plus haute de ses fenêtres, et au bout de quelques secondes, une biche qui passait par là, l'air de rien, s'arrêta devant la porte, mit nonchalamment un coup de pied dedans, et la porte s'ouvrit. Mélusine était aux anges. Enfin, elle était arrivée à bon port. Une fois rentrée dans la vieille maison abandonnée, elle courut tout droit jusqu'au placard à balai. Elle prit une grande inspiration, mit ses mains à moitié gelées sur les poignets et tira. impossible de l'ouvrir. Elle tapa sur la porte, et ça, de plus en plus fort. Si rien ne se passait, elle était désormais entourée d'un nuage de poussière qui tombait au rythme de ses coups. Elle s'arrêta à bout de force. Elle était là, devant la porte du placard à balai, où sûrement était recroquevillée sa mère, et elle ne pouvait pas l'ouvrir. Alors, elle resta là, plantée devant cette porte, et elle se mit à pleurer. Mais le nuage de poussière, une fois dissipé, laissa apparaître quelques mots gravés sur la porte du placard. Elle passa la main dessus pour mieux le déchiffrer.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir.
En disant ces mots, le placard se mit à bouger. Mais il ne s'ouvrait toujours pas. Alors elle le dit une fois, deux fois, trois fois, plus vite et plus fort. Bien qu'elle sentait à chaque répétition de la formule une présence de plus en plus vive, la porte ne s'ouvrait toujours pas.
« Je sais que tu es là, que tu existes. »
Elle appela sa mère, lui demanda comment la sortir de là, mais pas de réponse.
« Réfléchis, Mélusine, réfléchis. »
À bout de force, ayant répété plus de 1000 fois ces mots gravés, elle décida de faire le tour de la maison, de se poser 2 minutes, de s'éclaircir les idées. Dans le salon, à côté d'un vieux canapé bordeaux, elle trouva une guitare, sûrement la guitare de sa mère. Cela lui redonna le sourire. Elle la prit dans ses mains comme un trésor, passa sa main sur son flanc comme pour la caresser et s'installa avec elle sur le vieux canapé. C'est alors qu'elle se mit à gratter. C'est alors qu'elle se mit à fredonner. C'est alors qu'elle se mit à chanter.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir.
Le cœur de Mélusine battait la chamade. À l'autre bout de la pièce, une silhouette et son ombre était en train de sortir difficilement du placard. C'était sa mère. Elle s'approcha lentement d'elle. Elles se regardèrent comme une première fois. Elles se regardèrent comme si elles se paraissaient familières. Elles se regardèrent pendant un temps infini. Puis, Mélusine la prit par le bras pour l'installer tranquillement autour de la table de la cuisine. Elle mit de l'eau à chauffer pour lui faire une tisane. Aucun mot n'était encore sorti de leur bouche. C'est sa mère qui prononça le premier.
Mélusine.
Une fois commencé, c'est comme si on ne pouvait plus les arrêter. Mélusine lui raconta tout.
La forêt, ma grand-mère, mon arrivée à Toulouse, la rencontre avec Malika, puis avec Bachir, la charade, puis la biche.
Ensuite, c'est sa mère qui lui raconta tout.
Le couvre-feu, la résistance, le jour où je t'ai confié à grand-mère, les années passées en sommeil dans le placard, l'espoir et le désespoir qui m'ont traversée.
Mélusine comprit que le couvre-feu et la répression avaient agi comme une malédiction lente et sournoise qui avait peu à peu amoindri le pouvoir des sorcières. Celles qui avaient refusé de renier leur vie de sorcière n'avaient d'autre choix que de se mettre en sommeil dans leur placard à balai. Avant de perdre leur dernier souffle de résistance, elles avaient inventé cette chanson comme un sort qui les réveillerait toutes, comme un appel qui les sortirait de leur torpeur pour prédire des jours meilleurs.
Après de longues heures de retrouvailles, le récit de toutes ces aventures, après s'être serré dans les bras, pour la mère de Mélusine, l'heure était à la libération. À la libération de toutes ses sœurs sorcières. Et sa mère, elle avait un plan. Bien sûr qu'elle en avait un. Elle en avait même 1000 des plans vu le temps qu'elle avait passé dans ce placard à attendre ce moment.
Ni une ni deux, elles partirent vers la gare pour remonter la rue du 10 avril. Tout en haut de cette rue sans fin se trouvait l'antenne radio de la ville. Il y avait Bachir et Malika aussi. C'était le bon endroit, le bon moment, les bonnes gens. Alors, une fois que fut branché le câble qui permettait de se connecter à l'antenne, toutes se mirent à chanter, à cœur joie, la chanson.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir. Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir. Sorcière, sorcière.
Ce soir-là à Toulouse, on n'entendait plus que ce refrain et des portes s'ouvrir lentement. Puis on aperçut des balais volés, avec sur leurs manches des sorcières, reprenant le refrain toute la nuit durant. Beaucoup d'habitants sortirent aussi pour assister au spectacle. Et comme s'ils se réveillaient aussi, ils se mirent à se remémorer l'époque presque oubliée du temps des sorcières. Ils la racontèrent à leurs enfants et à leurs petits-enfants aussi. D'autres restèrent enfermés, à double tour chez eux. Et c'est tant pis pour eux. Ce soir-là, les flics et les autorités, eh ben, ils étaient débordés. Ils savaient vraiment pas où donner de la tête.
Depuis ce jour, si vous entendez la nuit des personnes chanter à tue-tête alors que c'est interdit, arpenter les rues de la ville alors que ce n'est pas permis, voler sur des balais ou se réunir et discuter de longues heures là où elles ne sont pas censées le faire, vous saurez qu'elles fêtent la libération des sorcières et qu'elles portent l'espoir de ne plus jamais se laisser déposséder de la nuit et de la ville.